Corinthiens 12, versets 12 à 31. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui nous paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence.
Y arriver. À la télévision, l'été, c'est parfois la période des rediffusions. Et je vous confesse que le message de ce soir, c'est une rediffusion datant de 2015. Alors, je vous explique un petit peu. C'est grave. Je vous explique un petit peu. Nous avons décidé, au courant de la semaine, de finalement faire la pause dans l'évangile de Marc dès maintenant, puisque nous avons atteint la fin du chapitre 8, qui est une transition assez naturelle. Et nous verrons si nous reprenons cette série dans Marc plutôt dès le mois de septembre, ou peut-être un peu plus probablement au mois de janvier prochain, ça reste à confirmer. Mais tout ça pour dire que donc, il y avait là un message qui ne portait pas sur Marc, et il m'a semblé que ce thème, surtout dans la perspective de la lecture du livre de l'été, je vous encourage à acquérir, j'en redirai un mot, gardait toute sa pertinence. Alors il rappellera peut-être quelques souvenirs à quelques-uns, puisque c'est en 2015 que j'ai donné ce message, donc qui sait, peut-être que ça vous dira vaguement quelque chose, mais pour beaucoup je pense que ça sera la première fois. Je vous invite donc à une réflexion sur ce texte de l'apôtre Paul. Par ailleurs, cette première lettre aux Corinthiens, c'est aussi celle que nous étudierons en atelier biblique à la rentrée, teaser. Et donc, j'espère que ces brefs lignes dans la première aux Corinthiens vous donneront envie de creuser cette épître. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne pas aller au travail simplement parce que vous n'en aviez pas envie? Décidé comme ça un matin, de rester au lit en vous disant que les collègues comprendront bien. Alors ne répondez pas. Mais normalement, j'imagine que la réponse, c'est plutôt non, parce qu'on ne peut pas décider comme ça un jour qu'on n'ira pas au travail, tout simplement parce qu'on n'en a pas envie. Autre exemple, on ne peut pas décider tout d'un coup un jour qu'on ne prendra pas soin de ses jeunes enfants parce que voilà, on en a assez, on est fatigué et qu'ils se débrouilleront bien. Ce n'est pas possible. On a des obligations, on s'est engagé. Alors, vous me voyez déjà venir peut-être avec cette illustration après avoir lu un texte qui nous parle de l'église locale et de la vie de l'église locale. Et j'entends déjà l'objection. L'église, ce n'est pas le travail. Et on se dira peut-être, si je ne vais pas au travail, je mettrai mes collègues en difficulté. Et bien sûr, je risquerai le licenciement. Alors que si je reste un peu en retrait de l'église, franchement, qui est-ce que ça dérangera? Surtout à la rue de Sèvres, une église bien rodée, 2 cultes, 3 pasteurs, est-ce qu'on a franchement besoin de moi? Alors c'est vrai que, je le concède, l'engagement envers l'église locale n'est pas le même que l'engagement envers un emploi, par exemple. Et effectivement, c'est un engagement beaucoup plus important. Alors avant que vous m'accusiez d'être naïf, culpabilisant ou excessif ou tout ça à la fois, je voudrais qu'on essaie de comprendre ce que l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, veut nous dire au sujet de l'engagement dans l'église locale. Alors en disant cela, je sais que je m'adresse à des frères et sœurs qui, pour certains, sont déjà très engagés dans cette église. D'autres moins, et d'autres peut-être pas du tout, ou certains parmi nous, sans doute, ne sont pas encore chrétiens, n'ont pas encore fait la rencontre personnelle de Jésus-Christ. Mais j'espère que cette réflexion sera profitable pour nous tous. Et je l'ai dit déjà, vous noterez au passage que ce message peut servir peut-être de petite introduction à notre livre de l'été qui porte sur ce thème de l'engagement dans l'église locale. Et je recommande vraiment la lecture de ce livre. Alors, il coûte 11 euros. C'est notre frère Bi, est-ce qu'il est là? Oui, il est là, bien sûr, je l'ai vu tout à l'heure, qui s'occupe d'encaisser, de vous confier un livre et donc aller le voir à la fin du culte. C'est un livre donc, de Jonathan Lehman, traduit de l'anglais, mais qui, je trouve, s'applique bien aussi pour notre contexte en francophonie. Et il y a d'ailleurs un chapitre entier qui parle des différents contextes qui peuvent exister. Donc vraiment, je vous encourage à acquérir ce livre. Nous allons aborder ce texte en nous posant cette question toute simple. Pourquoi Dieu m'appelle-t-il à m'engager dans mon église locale? Pourquoi Dieu m'appelle-t-il à m'engager dans mon église locale? Et je vous propose de répondre à cette question par une devise. Alors, ce ne sera pas la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, mais elle rime avec, donc c'est quand même pas mal, unité, diversité, solidarité. On va examiner ces 3 aspects de la vie d'église à partir de notre texte. Donc on va commencer par l'unité. Vous aurez repéré, sans doute en écoutant la lecture de Génova, que l'apôtre Paul utilise dans ce texte une image, celle du corps humain et de ses membres. Il explique d'emblée où il veut en venir avec cette image, dès le verset 12. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Alors l'image, elle est assez facile à comprendre. Chacun d'entre nous a un seul corps, a priori, qui est uni, mais qui est composé de parties différentes. Alors la dernière phrase est un petit peu plus surprenante. L'apôtre Paul écrit, on s'attendrait à ce qu'il écrive, « Il en va de même pour l'Église ». Donc tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. « Il en va de même pour l'Église ». Mais au lieu de cela, il écrit, « Il en va de même pour Christ ». Mais on comprend mieux en lisant le dernier verset de notre texte, le verset 27. Vous êtes, c'est pas le dernier verset, mais vers la fin du texte, voilà. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. L'Église, dans l'esprit de l'apôtre Paul, est tellement étroitement associée à Jésus-Christ que pour faire court, il peut dire « Christ » alors qu'il parle de l'Église. C'est quand même très frappant. Alors bien sûr, quand Paul dit « vous », ici, il parle de l'église de Corinthe en premier lieu, c'est à cette église qu'il écrit à l'époque. Dans d'autres textes, Paul parle de l'église avec un grand « e », dans un sens plus large et universel, le peuple constitué des disciples de Jésus partout dans le monde. Mais ici, dans le contexte, c'est clairement l'église locale dont il est question. L'église de Corinthe a pour vocation d'être le corps de Christ. Alors c'est une image, bien sûr, mais c'est une image très forte. L'église de Corinthe et celle de la rue de Sèvres ont pour vocation de montrer Jésus-Christ au monde, de vivre de la vie qu'il donne, de manifester visiblement sa présence dans le monde. Et déjà ça, ça remet les choses en place. Parce que l'église n'existe pas pour nous, mais pour lui. Et c'est fondamental d'être au clair là-dessus pour comprendre à quel point l'unité, premier mot-clé, est essentielle. Parce qu'il n'y a pas plusieurs Jésus. Il n'y en a qu'un seul. Et donc si l'église est le corps de Christ, par définition, elle a vocation à être unie, consacrée à un même objectif, manifester la présence et l'action de Jésus dans ce monde rebelle à Dieu. Et pour illustrer cela, cette image du corps que Paul utilise, il faut reconnaître qu'elle est très parlante. Un corps, par définition, est uni. Lorsque je me déplace, c'est tout mon corps qui se déplace. Lorsque je me repose, c'est tout mon corps qui se repose. Les parties du corps sont indissociables les unes des autres, enfin sont indissociablement liées, disons, entre elles, et leur vie, la vie de toutes les parties du corps, est intrinsèquement liée à la vie du corps. Si on vous enlève une dent, elle ne fait plus partie de votre corps, et elle meurt, et elle ne sert plus en rien, vous pouvez peut-être la garder comme souvenir si vous voulez, les enfants font ça parfois, mais elle perd sa raison d'être, elle perd son identité. Parce que chaque partie du corps trouve son identité et sa fonction dans son appartenance au corps. Alors quand on considère que pour l'apôtre Paul, l'église locale c'est le corps du Christ, eh bien ça, je l'ai dit, ça remet les choses en place, ça doit nous secouer un peu. Parce que l'image implique qu'un chrétien passe à côté de sa vocation essentielle lorsqu'il n'appartient pas au corps, lorsqu'il n'appartient pas à la communauté locale qu'est l'église. Alors ici je ne parle pas spécifiquement de l'adhésion officielle comme membre de l'association cultuelle, ce qui a son importance. Mais appartenir à une église, bien sûr, c'est plus que cela. Une autre implication de cette image, c'est qu'un chrétien ne fait pas partie de l'église pour soi, mais pour l'église. De même que une main ou un pied n'existe pas pour soi, mais existe pour le corps. Enfin, et directement lié à cela, les chrétiens sont liés les uns aux autres, non pas pour se servir eux-mêmes, pas même pour trouver un intérêt commun, dans une cause commune qui nous rassemble, comme un club de foot ou comme une association d'échecs ou des anciens combattants ou je ne sais pas quoi. C'est beaucoup plus que cela. Les chrétiens sont liés les uns aux autres pour être au service de celui à qui le corps appartient, Jésus-Christ. Paul ne dit pas aux Corinthiens, « Bon, bah, puisque vous êtes tous chrétiens, ça tombe bien, ces convictions en commun, vous avez décidé de vous associer en église, super, eh ben, je vais vous donner quelques conseils pour que tant qu'à faire, ça marche bien. » Ce n'est pas du tout ça. Voici ce qu'il affirme au verset 13. « En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, » Paul parle dans son contexte à l'époque. Donc, autrement dit, quel que soit notre arrière-plan, « nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Donc pour Paul, si nous avons été baptisés, si nous sommes devenus chrétiens, si nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est pour former un seul corps. C'est à ça que sert la vie chrétienne, entre autres. Et il ajoute au verset 18, « Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. » Autrement dit, c'est Dieu qui non seulement nous appelle à nous engager dans l'Église, mais qui a le droit absolu de nous utiliser dans le cadre de cette vie d'Église. Nos vies d'Église ne nous appartiennent pas. Elles lui appartiennent. Et cette souveraineté de Dieu sur l'Église, cette vocation qu'il nous adresse, pour lui, eh bien c'est ça qui nous unit. C'est ça le fondement de l'unité. Nous vivons et nous œuvrons ensemble pour lui. Maintenant, ce que Paul va souligner ensuite avec force, c'est que l'unité du corps repose sur la diversité de ses membres. Et ça nous amène second mot, au deuxième mot de notre devise, la diversité. Alors quand on entend le mot diversité, un mot assez à la mode aujourd'hui, on a tendance à peut-être avoir des choses un peu idéalistes, un peu poétiques à l'esprit. Et c'est une des grandes valeurs de notre temps, hein, la diversité. Chacun son identité, chacun sa façon d'être, chacun sa place, chacun sa façon de penser. Mais l'apôtre Paul, ici, ne présente pas la diversité comme une sympathique expression de soi où chacun revendique sa place et où chacun revendique son droit. Il nous présente la diversité comme étant une nécessité, comme étant absolument vitale et essentielle pour que l'unité soit possible. Imaginons, on est dans l'air du temps, hein, une équipe de foot où tous seraient gardiens de but. Ça irait pas loin. Ou un orchestre symphonique où tous jouent du tuba. Ou une ville où tous les médecins seraient dermatologues. Il n'y a que ça. Alors si on a une maladie de la peau, c'est super, mais si on a autre chose, ça pose problème. Mais l'image que l'apôtre Paul prend, certainement meilleure et elle est plus parlante, c'est la même qui continue à filer la métaphore, la même qu'il a utilisée à propos de l'unité, c'est l'image du corps humain. Et il souligne combien la diversité dans le corps humain est absolument vitale. Versets 14 à 16, « Ainsi le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant ? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant ? La diversité des parties du corps est vitale, au sens strict, c'est vital. Sans diversité, on ne peut pas vivre. Et plus encore, c'est la diversité qui rend possible l'unité. Et c'est ce que Paul souligne au verset 21. « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. » Et à la fin du texte, l'apôtre Paul va montrer combien l'Église a besoin des différentes personnes et des différents services. Verset 29, « Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils enseignants, tous font-ils des miracles, etc. » Et l'apôtre Paul va continuer avec une liste. Et ce qu'il souligne ici, ce n'est pas du tout exhaustif. Et Paul, dans ses chapitres de sa lettre aux Corinthiens, va particulièrement mettre l'accent sur certaines expressions, certains dons qui posaient problème à Corinthe, où les gens se disputaient un peu sur ces thèmes-là, et c'est donc aussi pour ça qu'il insiste là-dessus. Prophètes, enseignants, miracles, dons des langues, etc. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils enseignants ? Et bien sûr, la réponse implicite à toutes ces questions, c'est non. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas enseignants. Alors vous me direz peut-être que tout ça est assez évident. Ben oui, il faut de la diversité, voilà, même dans une entreprise, il faut de la diversité, dans une association, dans une famille, il faut de la diversité. Et après ? Ben ce qu'il faut dire après, c'est que la diversité n'existe que si les diverses personnes s'engagent. Sinon, c'est bien joli de parler de diversité, mais ça ne veut pas dire grand-chose si dans les faits, tout repose sur quelques-uns. Et donc pour Paul, ne pas s'engager dans une église pour un chrétien, c'est aussi absurde que pour une jambe de décider qu'elle ne veut plus travailler pour le corps. Verset 15, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant ? Et inversement, le corps ne peut pas prétendre ne pas avoir besoin de telle ou telle partie. Verset 21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Or, Paul ne parle pas ici seulement de quelques dons ou de quelques fonctions dans l'Église, mais bien de tous les membres. Et si vous en doutez, je vous renvoie au verset 27. « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et je voudrais insister là-dessus, parce que nous sommes à une époque où très souvent, c'est lié à notre contexte culturel, en Occident aujourd'hui, très souvent, l'Église est vue avant tout comme un prestataire de service. Voilà, vous savez que maintenant, on peut même sur Google donner une évaluation pour les églises. Et donc, on va dans une église et avant tout, on se dit, qu'est-ce que ça va m'apporter ? Alors, je ne dis pas que, évidemment, qu'on va, s'il y a des choses qui nous plaisent ou nous déplaisent, ça va compter. Je ne dis pas le contraire. Mais on est complètement à côté du sens biblique de ce que c'est qu'une église si on pense que, voilà, il y a une sorte de marché des églises et on va juste trouver quelque chose qui nous convient bien. On sort complètement de ce que c'est que la vision que Dieu a de l'Église. L'Église comme prestataire de service, ce n'est pas possible. Pour Paul, être chrétien, c'est faire partie d'une Église locale et c'est parce qu'il y a des gens qui s'engagent dans l'Église que l'Église existe. Faire partie d'une Église locale, ce n'est pas seulement être en phase, être sympathisant ou bien aimer ce qui s'y fait, tant mieux si c'est le cas évidemment, mais c'est jouer le rôle essentiel que Dieu nous appelle à jouer pour faire vivre son corps. Donc dire que l'Église a besoin de la diversité de ses membres, c'est dire qu'elle a besoin de chacun de nous. Dès lors, quand on s'engage dans une Église, et quand, par exemple, on s'engage dans telle ou telle tâche précise. Il y a des personnes, vous aurez remarqué, chaque dimanche, qui préparent la salle, qui font de la musique, qui sont à la sono, et je pourrais citer bien d'autres exemples. Eh bien, il ne s'agit pas de dire « Allez, je vais donner un coup de main, parce que je suis gentil, je suis quelqu'un de serviable. » Mais en fait, il en va du sens même de notre vie chrétienne, de s'engager dans l'église locale. Et même, j'ose dire, il en va du sens de notre vie, tout court, si nous sommes chrétiens. Donc l'église locale est une communauté appelée à l'unité et à la diversité. Maintenant, pour que la diversité soit mise au service de l'unité, eh bien, il faut de la solidarité. Et c'est notre troisième et dernier mot-clé, solidarité. On peut avoir un même but, on peut avoir des personnes et des capacités complémentaires. Si ces personnes ne sont pas solidaires, la diversité ne sera pas au service de l'unité. Mais la diversité, ça sera plutôt du grand n'importe quoi, ça sera l'éparpillement. Alors je vais parler des heures les plus sombres de l'histoire, lors de la catastrophique Coupe du Monde 2010. Je plaisante, hein, mais évidemment, vu le match d'hier, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais à l'époque, lors de cette catastrophique Coupe du Monde, alors que la France venait de perdre contre le Mexique, un des joueurs de l'époque, Jérémy Toulalan, expliquait ainsi la défaite. « La différence entre nous et le Mexique, c'est que le Mexique était une équipe, alors que nous étions 11 joueurs. » Le problème de l'équipe de France n'était pas une absence de capacité ou de talent, il y avait de très bons joueurs, mais c'était l'incapacité à mettre ses talents au service d'une même cause. L'apôtre Paul, lui aussi parle de solidarité dans notre texte. Après avoir parlé de la nécessaire diversité, il poursuit au verset 22 et 23. « Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. » Et au verset 24, « Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. » Que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Et que l'apôtre Paul met quand même la barre assez haut là. Est-ce que nous venons à l'église aussi pour prendre soin les uns les autres? Que fait l'apôtre Paul ici? Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors il faut bien faire attention à ne pas confondre l'image qu'il emploie et la réalité que l'image illustre. L'image, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit ceci. Certaines parties du corps, les moins visibles, sont absolument essentielles. Par exemple, moi, je n'ai jamais vu le cœur ou les poumons de qui que ce soit ici. J'en suis ravi. Et pourtant, c'est absolument vital. Chacun d'entre nous en a. Donc, Paul pense manifestement aux organes internes qu'on ne voit pas, mais qui sont absolument vitaux. Il poursuit en disant que les parties du corps qui semblent les moins honorables sont traitées avec le plus d'égard, verset 23. Et l'apôtre Paul, qui parfois ne s'embarrasse pas de nos précautions, semble penser ici aux parties intimes, qui sont indécentes à montrer, mais qui dans un sens bénéficient de la plus grande protection. Alors je l'ai dit, il ne faut pas faire dire à Paul plus que ce qu'il ne veut dire, c'est une image qu'il emploie. Donc son propos n'est pas de dire que les gens les moins visibles sont toujours les plus importants et que les gens les plus visibles sont toujours les moins importants. Je ne pense pas que ce soit son propos ici, mais précisément de refuser toute hiérarchie d'importance, de qui est plus important dans l'Église. La logique qui doit guider l'Église est inverse à celle du monde. Pas seulement différente, mais même dans un sens inverse. On élève ceux qui sont les plus vulnérables et les plus fragiles. Et ceux qui sont les moins vulnérables, précisément contribuent à élever les autres. On accorde dans le monde, d'un point de vue général, dans notre société, le plus d'importance à ce qui fait le meilleur effet. Et on accorde le plus d'égard à ceux qui ont le rôle le plus visible. Dans l'Église, en revanche, chaque membre est essentiel, y compris ceux qui sont les plus discrets. Et si certains membres sont difficiles, si leur situation est difficile, s'ils sont fragiles, eh bien, ils doivent bénéficier d'une attention toute particulière et être protégés et aimés. Et pour ceux pour qui les choses sont peut-être plus favorables et ou pour ceux qui ont un rôle plus visible, si nous étions tentés de penser que nous étions plus importants pour l'Église, eh bien, n'oublions pas que Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix pour des hommes et des femmes qui avait désespérément besoin de lui et qui ne pouvait absolument rien faire pour mériter sa faveur. Mais c'est entièrement par grâce qu'il nous a fait ce don à nous tous. Et donc ceux qui sont les plus visibles ne doivent pas penser qu'ils comptent plus pour la vie de l'Église ou aux yeux du Seigneur. Et c'est un bon rappel pour ceux qui, comme moi-même, sommes appelés à intervenir publiquement, à jouer un rôle de leadership, disons, dans l'Église. Mais à l'inverse, ceux qui sont les moins visibles ne peuvent pas se entre guillemets, les moins visibles, ceux qui sont les plus discrets, ne peuvent pas se dédouaner de l'engagement en se disant « Oh ben moi, de toute façon, c'est bon, mon rôle n'est pas important et ça m'arrange plutôt pas mal, l'Église tourne très bien sans moi. » Si nous sommes réellement dévoués, voués, consacrés, voilà, un meilleur verbe, à un but qui nous dépasse tous, celui de vivre pour Jésus, celui de se soumettre à Christ comme Seigneur, de le montrer au monde, eh bien notre préoccupation ne sera pas de savoir qui est le plus ou moins important, mais d'être ensemble au service les uns des autres. Non pas donc un corps malade, déséquilibré, mais un corps en bonne santé, en mesure d'être porteur de la bonne nouvelle de Jésus. La solidarité, ça implique de considérer l'autre, y compris celui ou celle avec qui je n'ai pas d'affinité naturelle, comme aussi important que moi, voire plus, aussi important que mes amis proches, aussi utile à l'œuvre de Dieu. Et puis la solidarité, c'est aussi ce réflexe que Paul énonce au verset 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ça, c'est possible seulement si on se connaît un minimum. C'est possible seulement si on développe des liens les uns avec les autres. Vous savez, quand on voit aux infos, à la télé, des choses terribles qui se passent en Syrie, au Yémen ou dans d'autres pays où les choses vont très mal, ou même parfois un drame qui se passe en France, ça nous émeut peut-être quelques instants. Mais ensuite, on va rapidement passer à autre chose, parce qu'on est humain et parce que quand on ne connaît pas les personnes dont il s'agit, ben, ça ne nous affecte pas de la même manière. Par contre, si c'est nos plus proches qui subissent quelque chose de terrible, ça va nous affecter beaucoup, beaucoup plus. Eh bien, il me semble qu'on ne va pouvoir souffrir avec ceux qui souffrent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent vraiment que si nous créons des liens les uns avec les autres. La solidarité, c'est être lié aux autres plutôt que de cloisonner nos vies par des défenses que nous voulons hermétiques. Et la solidarité, parfois, elle fait un peu mal parce qu'elle amène de nouveaux soucis dans un sens. De nouveaux espoirs qui parfois sont déçus, de nouvelles craintes que celles qui étaient exclusivement liées à notre quotidien. Mais la solidarité fait du bien aussi parce qu'elle apporte de nouvelles sources de soutien, de force et d'encouragement, et parce qu'elle fait grandir notre amour à l'image de celui de Jésus-Christ. J'aimerais conclure rapidement avec des considérations pratiques. On a vu que l'engagement dans l'Église pour l'apôtre Paul, ce n'est pas quelque chose qui est en option. Ce n'est pas la version premium de la vie chrétienne. C'est la version pour tout le monde, pour tous les chrétiens. C'est tout simplement indissociable de la vie avec Dieu. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'être engagé dans l'Église, c'est forcément être impliqué dans telle ou telle activité concrètement, s'inscrire à tel service pratique, être présent à telle réunion en semaine, etc. À cette question, je crois qu'il faut apporter une réponse nuancée. D'abord, bien sûr, l'Église et la vie de l'Église, y compris ses rencontres, ont besoin dans l'engagement des membres. Et donc, bien sûr, nous avons besoin que, pour autant que faire se peut, les membres de l'Église et les habitués de l'Église s'engagent concrètement dans telle ou telle activité. Mais en même temps, il faut bien reconnaître que la réalité d'un engagement ne se mesure pas au nombre d'activités auxquelles on participe ou aux heures qu'on y passe. On peut imaginer des gens qui seraient à tous les rendez-vous de l'Église, mais qui seraient égoïstes, indifférents aux autres, intéressés par leur propre intérêt, leur propre honneur, plutôt que celui de Jésus-Christ. À l'inverse, on peut être relativement peu présent aux activités, je pense en particulier aux activités de semaine, en raison de contraintes professionnelles, familiales ou autres, géographiques, mais être pleinement engagé par la prière, par le souci de l'autre, par les nouvelles qu'on prend, y compris peut-être par un texto, par un email, par un coup de fil, l'hospitalité qu'on exerce, de temps en temps, inviter chez soi, et peut-être pas que nos amis les plus proches, mais ceux qui sont là depuis pas très longtemps, ceux qui sont un peu plus timides. Et je m'adresse toutes ces exhortations à moi-même aussi, croyez-le-moi. Le soutien matériel qu'on va pouvoir aussi pour l'Église, le soutien financier. Donc ce soir, il ne s'agit pas de nous nous culpabiliser un peu artificiellement, mais plutôt de nous amener chacun à réfléchir et à prier sur notre place dans l'Église. Et cette réflexion, ces prières, forcément prendront en compte nos contraintes, notre réalité professionnelle et familiale, nos dons et nos capacités. Mais parfois, elles nous amèneront aussi, la réflexion, les prières, à faire des choix audacieux, à voir qu'une contrainte qui nous paraissait incontournable, eh bien peut-être ne l'était pas tant que ça. À voir des possibilités d'engagement que peut-être nous n'avions pas vues jusqu'ici. Que le Seigneur nous conduise chacun à trouver sa place dans le corps, dans l'unité, la diversité et la solidarité, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te demander d'appliquer à nos cœurs ce que tu nous instruis, ce que tu nous enseignes par ce texte de l'apôtre Paul. Nous voulons te remercier pour l'Église locale. Nous voulons, non seulement celle-ci bien sûr, mais toutes celles qui existent partout dans le monde. Nous voulons te remercier parce que tu as voulu, parce que comme tu es un Dieu relationnel, tu as voulu que nous soyons en relation les uns avec les autres, que nous formions un corps, une communauté, une famille. Donne-nous de pouvoir vivre cette réalité, de pouvoir mieux vivre cette réalité. Tu vois tout ce qui nous bloque, toutes les choses qui font que nous sommes encore loin du compte sans doute, et moi le premier. Mais Seigneur, donne-nous d'avoir ce profond désir en nous, de grandir dans nos liens les uns avec les autres, d'apprendre à mieux nous connaître et à nous aimer pour pouvoir vivre cette réalité de l'unité, de la diversité, de la solidarité. Au nom de Jésus. Amen.